Je vais l'introduire comme je vais le faire demain matin. Ce matin, nous allons changer notre point de vue dans notre étude des prophètes. Jusqu'à maintenant, nous avons vu des raisons pourquoi le royaume d'Israël a été divisé. Nous avons vu, nous avons regardé trois prophètes du royaume au nord, Élie, Amos et Osée. Ce matin, nous allons commencer une étude des prophètes de Juda au sud avec Ésaïe. La période de prophétie en Juda était beaucoup plus longue que celle en Israël. Les prophètes au nord étaient actifs entre 900 jusqu'à 721 avant Jésus-Christ, tandis que les prophètes au sud ont prêché depuis 900 jusqu'après l'exil en Babylone, ou à peu près jusqu'à 400 avant Jésus-Christ. La période de travail était plus longue parce que Juda n'était exilé que 586 ans avant Jésus-Christ et il n'était jamais détruit comme il fut le cas avec Israël. Le peuple de Juda est rentré de Babylone après 70 ans de l'exil. À cause de la longueur du livre d'Ésaïe, je voudrais diviser notre étude en deux parties. Ce matin, nous allons étudier la situation du prophète, pourquoi il a prophétisé, même Ésaïe, c'est-à-dire ses caractéristiques, son message, sa méthode, et enfin nous noterons quelques leçons pour nous-mêmes. La prochaine fois, nous étudierons des prophéties messianiques d'Ésaïe, c'est-à-dire les prophéties qui avaient un message pour son peuple, mais qui avaient aussi un message concernant le Messie, le Christ et son Église. Le livre d'Ésaïe est un des grands livres de la Bible dans le sens qu'il contient les concepts les plus hauts de Dieu et de sa louange. Par exemple, sa sainteté, comme dans la vision d'Ésaïe dans le temple, chapitre 6, son amour, Dieu protégeait son peuple et sa justice. Juda n'échappera pas aux conséquences de ses péchés. Dans le livre d'Ésaïe, on trouve aussi les concepts du péché les plus profonds. L'incrédulité. Plusieurs fois, ils ont mis leur confiance dans une nation au lieu de la mettre en Dieu. L'idolâtrie. Le peuple avait rejeté Dieu et adoré des idoles, c'est-à-dire des démons, jusqu'au point qu'ils leur offraient souvent des sacrifices humains. Aussi, dans le livre d'Ésaïe, on trouve l'idée la plus profonde et la plus large du salut. Toute nation, en se soumettant à la loi qui sortira de Sion, c'est-à-dire Jérusalem, peuvent trouver le salut. Le nom d'Ésaïe implique ce salut. C'est la forme grecque de l'hébreu qui traduit littéralement, l'Éternel a sauvé. Le ministère d'Ésaïe peut être daté depuis environ 742 avant Jésus-Christ jusqu'à probablement 701 avant Jésus-Christ. Il a prêché pendant les règnes de quatre rois en Juda, Ozias, Jotham, Achaz et Ézéchias. Il était actif donc en même temps qu'Osée au nord et le prophète Michée. Cela veut dire qu'il affrontait presque la même situation qu'Osée, sauf heureusement de temps en temps, il y avait des rois justes en Juda qui contribuaient à un équilibre moral. Par exemple, sous le règne d'Ézéchias, il y avait des réformes religieuses. Mais en Juda, il y avait aussi la méchanceté, l'intrigue, l'immoralité, l'inégalité et l'idolâtrie. Sous les rois comme Achaz, le père d'Ézéchias, il y avait l'idolâtrie jusqu'au point qu'ils ont brûlé vifs les êtres humains. Comme Amos au nord, Ésaïe fallait lutter contre une fausse confiance qui était répandue parmi le peuple. Dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 16, Dieu avait dit à David son père, que son trône sera pour toujours affermi. Et les gens en Juda pensaient que cela veut dire que dans aucune circonstance, Dieu pourrait laisser tomber la nation. Ils considéraient Jérusalem et la dynastie de David comme indestructibles. La Samarie, la capitale d'Israël et d'autres villes, pouvaient être détruites. mais jamais Jérusalem, et surtout pas la maison de Dieu, le temple. Ésaïe devait lutter contre cette idée. Dieu punirait les méchants. Ceux qui vivaient tranquilles dans Sion et avaient crié « paix, paix » seraient jugés. Sous le règne d'Ozias, Juda était devenue une puissance commerciale et militaire. C'était la première fois depuis Salomon qu'ils étaient si prospères. Pendant 52 ans, Ozias avait développé une grande armée. Il avait fortifié des murs et construit des tours. Il avait vaincu les Philistins, les Ammonites et les Édomites, et il avait établi le commerce étranger avec l'Inde et l'Afrique. Mais Ésaïe, au lieu de se réjouir à cause de cette prospérité, il a souligné la colère de Dieu contre un peuple orgueilleux et arrogant. Ésaïe a vu la fin d'Israël au nord en 721. Il n'était pas encore vivant à la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 586, mais il l'a vu s'approchant à sa fin. Le revenu du temple était le plus haut depuis des années. Mais Ésaïe était convaincu qu'ils honoraient Dieu de la bouche et des lèvres, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Chapitre 29, le verset 13. En protestant le manque de sincérité dans le louange, Ésaïe écrivait « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je ne prends point plaisir au sang des taureaux. J'ai une horreur d'incens. Mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Vos mains sont pleines de sang. » Chapitre 1, verset 11 à 15. Le chef politique acceptait le paiement illicite jusqu'au point qu'il n'avait pas le regard pour les orphelins et les veuves. Chapitre 1, verset 23. Et puis dans le chapitre 8, Ésaïe était sûr qu'il serait puni. Mais en même temps, il avait l'espoir que Dieu restaurerait Jérusalem. De Sion sortira la voix apportant la paix et la bénédiction à toutes les nations. Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 4. Il voyait qu'il aurait un reste sauvé du peuple. Donc, on peut dire qu'Ésaïe était un homme de foi, un homme d'espérance. Dieu peut toujours faire quelque chose avec Juda. De Juda sortirait l'espérance. Parce que Ésaïe était un homme de foi, sa confiance était toujours et premièrement en Dieu. Lorsque le lâche Achaz a demandé le secours d'Assyrie contre Israël et Syrie qui l'attaquaient, Ésaïe a contesté le roi et l'a exhorté d'avoir la confiance en Dieu. Les chapitres 6, 7 et 8. Achaz a refusé le conseil et en demandant l'aide d'Assyrie, a provoqué la défaite prédite pour Israël. Plus tard, sous le règne d'Ézéchias, Ésaïe a contesté le projet d'Ézéchias de demander l'aide d'Égypte et des Philistins contre la Syrie. Chapitre 14, le verset 28 à 32 et le chapitre 18. Ésaïe a insisté qu'il fallait avoir la confiance en Dieu seul et ne pas faire les alliances avec ou contre la Syrie. La destruction d'Israël par la Syrie aurait dû avertir Juda que la Syrie ne serait contente que lorsqu'elle posséderait toute la Palestine. La Syrie était contente d'aider Achaz, mais elle était moins contente de quitter Juda, laissant le peuple indépendant comme avant. Comme résultat, Juda était forcé à payer des tributs à la Syrie. Quand Ézéchias est devenu roi, il a pris le contre-pied de la politique de son père en essayant de libérer Juda des Assyriens. Il était motivé en partie par ses convictions religieuses et par la situation politique. tout de suite après l'exil au nord par Sargon II d'Assyrie, les Assyriens se révoltèrent contre le roi. En même temps, il y avait une nouvelle et puissante dynastie en Égypte. Ces deux circonstances ont provoqué Ézéchias à penser que l'Assyrie était faible et que l'Égypte pouvait l'aider à terminer l'alliance entre Juda et Assyrie. Mais Ézéchias avait tort. L'Assyrie était toujours puissante et avait apaisé la révolte interne. Ésaïe a poussé Ézéchias de ne pas s'allier avec l'Égypte. Donc, pour le moment, Ézéchias garde son accord avec Sargon. En évitant les activités politiques hors de Juda, Ézéchias avait le temps pour commencer les réformes internes. Par exemple, dans 2 Rois, chapitre 18, les versets 3 à 6, il est dit concernant Ézéchias, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, et, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, et il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. » Dans ce verset, il est dit qu'il a pris le courage de détruire le serpent d'airain que Moïse avait fait. En effet, Ézéchias avait décidé à faire disparaître toute forme d'idolâtrie. Et puis dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 1, nous trouvons que ses efforts de faire une réforme religieuse le menaient à inviter les Israélites qui étaient laissés au nord de venir à Jérusalem de célébrer la Pâque en honneur de l'Éternel. Mais lorsque le fils de Sargon, Sanchérib, est devenu roi d'Assyrie, Ézéchias a essayé à nouveau à terminer l'alliance avec cette nation idolâtre. En même temps, les rois de Tyr, d'Égypte et de Babylone se sont révoltés contre l'Assyrie. Et malheureusement, contre les avertissements d'Ésaïe, Ézéchias est devenu le chef de la révolte. Enfin, Sanchérib a assiégé Jérusalem. Mais par l'intervention miraculeuse de Dieu, Jérusalem a été épargnée. Ésaïe avait dit ceci dans 2 Rois, chapitre 19, les versets 32 à 34. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe avait la confiance en Dieu et sa confiance était justifiée. Ésaïe avait deux méthodes principales par lesquelles il proclamait ses messages. D'abord, par le moyen des prophéties de l'avenir, cette méthode figure aussi dans sa deuxième. Par exemple, il disait ce qui va arriver et il était si certain de sa prédiction qu'il a donné des noms des gens pas encore nés et des noms des nations n'ayant pas encore le pouvoir. Par exemple, l'enfant qui serait né comme signe à Akaz que Dieu le protégera, il serait nommé Emmanuel, le chapitre 7, verset 14. Matthieu applique aussi cette prophétie à Jésus dans le chapitre 1 de son évangile. Babylone, l'empire qui envahira Juda, détruira Jérusalem et le temple et amènera le peuple en exil, plus que 100 ans plus tard. Et Cyrus sera le roi de Perse qui laissera rentrer les captifs et qui commandera à propos de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe chapitre 44, le verset 28. Et c'était vrai. Un roi nommé Cyrus a libéré les captifs environ 185 ans après la mort d'Ésaïe. Mais je m'arrête là et nous regardons de plus près les prophéties de l'avenir la prochaine fois. Ensuite, pour sa deuxième méthode, Ésaïe employait des symboles. Son premier symbole était ses enfants. Comme chez Osée, le nom de chaque enfant portait un message. Par exemple, dans le chapitre 8, le verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Le nom de deux enfants se rapportait au même problème. Israël et Syrie voulaient attaquer Juda et le forcer dans une alliance contre la Syrie. Achaz avait peur. Il voulait appeler le secours d'Assyrie. Mais Ésaïe le suppliait de s'arrêter et d'avoir la confiance en Dieu. Dieu vous protégera, il a dit. Son premier nom était appelé Shirajashub, qui se traduit littéralement « un reste reviendra ». Le nom était donné comme encouragement pour la nation qui tremblait devant Israël et Syrie. Même s'ils étaient attaqués, Dieu gardera un reste. Une portion sera épargnée. Le nom avait rapport aussi avec l'histoire de Juda plus tard. Son fils cadet avait un nom beaucoup plus difficile et portait plutôt un message de jugement. L'enfant avait pour nom Maha Shalal Shajba, traduit littéralement « hâte le pillage » qu'on se précipite sur le butin. Dieu avait ordonné à Ésaïe un an avant d'écrire publiquement ce nom sur une grande tablette en caractère large. Puis Ésaïe l'a donné comme nom à son deuxième fils. C'était un message qui dit la destruction viendra soudainement et bientôt. Mais ce n'était pas contre Juda, mais contre ses ennemis. Il prédisait la conquête rapide et complète d'Israël et de Syrie par le roi d'Assyrie. L'événement annoncé s'est réalisé un an après la naissance de ce deuxième fils. Donc un autre message d'espérance pour Juda. Son deuxième symbole était complètement différent et beaucoup plus étonnant. Au lieu d'un nom, il a exécuté une action. Son action s'est présentée lorsque Ézéchias était prêt de rompre l'alliance avec Sargon d'Assyrie. Ézéchias savait qu'il ne pouvait pas se révolter tout seul. Donc il voulait s'allier avec Babylone, Égypte et Éthiopie. Le message d'Ésaïe était « Vous ne pouvez pas mettre votre confiance dans ces nations. Ils ne peuvent pas résister au pouvoir d'Assyrie. Seulement Dieu peut vous aider. » Voilà comme il a proclamé dans le chapitre 20, les versets 1 à 6. L'année où Tatan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amo, et lui dit, « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance. et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et les habitants de cette côte diront en ce jour, voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? Comme Ésaü marchait nu et déchaussé pendant 3 ans, ainsi les nations dans lesquelles Juda avait mis sa confiance seraient nues et impuissantes devant Assyrie. Cette action d'Ésaü était particulièrement étonnante à cause du fait qu'Ésaü était une personne bien connue à la cour du roi. Si quelqu'un de moins important l'avait fait, les gens n'auraient pas fait attention. Mais puisqu'il était Ésaü, ils ont accepté son avertissement comme quelque chose de solennel. Ésaü avait demandé une confiance en Dieu et pas dans un homme, et il a gagné la victoire. Ésaü était un homme de courage. Il était courageux en face des dangers. Il était courageux en face des rois comme Akaz, des hommes qui pouvaient commander sa mort sur l'instant. Ésaü était un homme de foi. Il avait souvent supplié le peuple de mettre leur confiance en Dieu seul et de ne pas la mettre dans la force militaire d'une nation. Il avait la foi qu'un jour, Dieu restaurerait son peuple, même après une punition. Amos et Osée, au nord, avaient demandé un retour à la justice passée. Ésaü avait la foi de demander une justice future. Ésaü était motivé dans son travail à cause de sa compréhension de Dieu. Il avait assisté au temple, et là, il a vu la sainteté de Dieu dans une vision, une sainteté qui ne pouvait point supporter le péché. De cette compréhension de Dieu, Ésaü a compris qu'il était d'un caractère méprisable et que Juda était d'un caractère méprisable aussi. « Malheur à moi, dit-il, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaü chapitre 6, le verset 5. Avec cette compréhension de Dieu, de lui-même et de son peuple, il s'est déterminé à tout prix d'apporter le message de Dieu, la foi et le courage. Je prie que nous pouvons profiter des vertus d'Ésaü. D'abord, nous devons développer une compréhension plus profonde de notre Dieu. Il faut prendre plus de temps avec lui pour apprendre des choses profondes de lui. Connaissant sa sainteté, parlant avec lui dans la prière, rendant louange à lui seul, étudiant sa parole. Ainsi nous aurons du respect pour Dieu qui se révèle à tous ceux qui veulent le connaître. Et aussi, nous dirons comme Ésaü, « Me voici, envoie-moi. » Chapitre 6, le verset 8. Ensuite et enfin, nous devons avoir la foi d'Ésaü, une foi ou une confiance que Dieu est notre seul secours, notre seul appui physiquement ou spirituellement. Il faut une foi qui ne met aucune confiance dans la puissance d'une nation ou d'une personne. Et de cette plus grande foi, nous aurons un plus grand courage. Le courage de parler pour ce qui est juste, le courage de lutter contre le mal, le courage de partager notre foi avec les gens qui nous entourent. Mais nous possédons les vertus d'Ésaü seulement lorsque nous nous rendons compte de notre besoin de Dieu. Et du fait que sans Dieu et son travail en nous par Jésus-Christ, nous sommes d'un caractère méprisable. Et nous sommes comme Ésaü seulement lorsque nous sommes purifiés et rendus prêts pour le servir, pour servir Dieu. Quand Ésaü voulait se soumettre à Dieu et le servir, un séraphin a volé vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en a touché sa bouche et il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Chapitre 6. Si vous voudriez vous soumettre à Dieu, vous pouvez être purifié par le sang de Jésus. D'abord, vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus dit dans Jean 8, le verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Basé sur cette foi que Jésus a demandé, vous devez faire ce que Pierre a commandé aux Juifs le jour de Pentecôte. Dans les Actes chapitre 2, les versets 38 et 39, il répond à leur question, « Frères, que ferons-nous ? » Il dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est aussi simple que cela. C'est une bonne conscience envers Dieu. Mais il est à vous, il est à chacun de nous de le décider avant que Jésus revienne. Que Dieu soit loué. Il est juste et il est miséricordieux. Amen.